France Inter, le 18-20.
Une question ce soir dans le téléphone sonne Europe. Pourquoi les Européens souhaitent-ils finalement libéraliser le train? Depuis 25 ans, le transport des marchandises et les lignes internationales de voyageurs sont ouvertes à la concurrence. Pour la Commission européenne, la concurrence est avant tout l'efficacité. Violeta Bulc, la commissaire au transport, résume cette philosophie en une phrase. L'ouverture progressive du marché devrait améliorer les performances des services ferroviaires. Ça, c'est sur le papier. Dans la pratique, tout cela reste à confirmer, on va le voir. Car selon les pays, les réformes ont été plus ou moins réussies. En Grande-Bretagne, c'est le client qui passe à la caisse, les tarifs ont explosé. En Italie, c'est un succès, NTV est devenue la première compagnie privée TGV, elle est bénéficiaire. Et puis en Allemagne, 99% des lignes longue distance sont encore exploitées par la compagnie publique, la Deutsche Bahn. Cette ouverture a-t-elle entraîné les dégradations dans les conditions de travail, la fin du service public, la fermeture des petites lignes? Question ce soir en direct du Parlement européen sur France Inter, très importante. Est-ce une bonne ou mauvaise chose pour le consommateur de usager les devenus clients?
Le téléphone sonne Europe. Stéphane Le Neuf.
Et au 01 45 24 7000, on retrouve Gilles. Bonsoir Gilles, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Bon, je vous appelle parce qu'il y a déjà eu un téléphone sonne sur ce thème il n'y a pas très longtemps, au moment de la présentation du projet de réforme de la SNCF. Et parmi vos invités, il y avait, je crois, si je me souviens bien, le président de la Fédération nationale des associations des usagers de transport, la FNOT, qui disait qu'en Allemagne, depuis ce que je préfère dire la fin du monopole plutôt que libéralisation, depuis que cette fin du monopole, le service public allemand du chemin de fer s'était développé, qu'il exploitait maintenant plus de lignes et plus de trains qu'auparavant, que du temps du monopole. Est-ce que c'est vrai? Premièrement. Et puis deuxièmement, je crois savoir que le système suisse de train est lui aussi très performant, tout en étant ouvert à la concurrence, à tel point que les Suisses prendraient 4 fois plus de trains par an que les Français, selon mes informations. Est-ce que ça aussi c'est vrai? Et puis si vous le permettez, une petite anecdote. Que j'avais entendu à la radio il y a une bonne quinzaine d'années, c'est-à-dire qu'il existait une ligne de chemin de fer entre Gérardmer et Mulhouse qui était inexploitée par la SNCF, et un transporteur suisse voulait exploiter cette ligne, et la SNCF avait refusé au nom du principe du monopole, si bien qu'elle avait laissé cette ligne à l'abandon, qu'elle n'avait rendu aucun service au public au nom du monopole. Voilà.
Merci Gilles pour vos questions. Alors autour de la table pour répondre effectivement à vos interrogations, Karim Adeli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la commission des transports du Parlement européen, du groupe des Verts. Izaskun Bilbao Barandica, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du groupe Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe et vice-présidente de la commission transport. Et Christine Revaud-Dallone, membre du groupe de l'Alliance progressiste et socialiste et démocrate, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Gilles pose deux questions. En fait, la Suisse, on va laisser un petit peu de côté pour l'instant, mais on va y répondre. L'Allemagne, Karim Adeli, est-ce que c'est juste de l'autre côté de la frontière. Est-ce que les Allemands ont aujourd'hui un meilleur service public? On rappelle quand même que la Deutsche Bahn, sur les grandes lignes, est encore quasiment en monopole à 99%.
Oui, parce que la libéralisation, ça ne veut pas dire dérégulation. Les Allemands ont compris que ouverture à la concurrence, ça veut dire aussi mettre les garanties du service public. Ce qu'ils ont fait très bien, c'est-à-dire concrètement, renforcer les conforts de les standards de qualité de service, la tarification sociale, pas de transfert de personnel, ce qui est important, on reviendra dedans. Et là, quand on regarde les chiffres, au fait, pour eux, la libéralisation a été directe. C'est qu'une baisse des coûts de 30% pour les usagers et des vraies missions de service public. Et sur ce côté-là de la libéralisation, on ne peut pas s'opposer. Maintenant, il n'y a pas eu que de la libéralisation des passagers. On a eu de la libéralisation aussi du fret. Je pense que les Français, parce qu'on est en France dans un débat sur pour ou contre la libéralisation, il ne faut pas oublier que la libéralisation sur le fret a eu lieu en Europe en 2006. On peut dire qu'en 10 ans, en France, sur le fret, c'est 10%, alors qu'en Allemagne, c'est 30%.
On va y revenir, mais c'est un échec complet pour la France sur le fret. Hein.
Ce n'est pas que c'est un échec, c'est que c'est des choix politiques. Lorsque vous avez deux compagnies que ce soit la SNCF ou la Deutsche Bahn, où la semaine dernière, on montre les chiffres, notamment de réinvestissement sur le ferroviaire, quand la Deutsche Bahn dit c'est 9 milliards d'euros, et que nous, on a un rapport qui s'appelle le rapport Spinetta, qui dit 400 millions d'euros, vous avez compris où étaient réellement les objectifs. C'est-à-dire, l'Allemagne considère aujourd'hui que la libéralisation, c'est pas suffisant pour rendre le ferroviaire attractif, il y a d'autres choses à faire. Ils ont décidé de prendre à bras le corps la question de « il faut investir, c'est maintenant ». Ils ont une redevance poids lourd. Et la dernière chose, c'est qu'eux, ils ont compris que les trains ne sont pas en concurrence entre eux. Les trains sont en concurrence avec la route pour les marchandises et demain avec l'aérien.
Christine Rovedalon, pour en revenir à l'Allemagne, un phénomène quand même important, c'est qu'aujourd'hui, on ne libéralise pas sur les réseaux régionaux parce que ça coûte extrêmement cher pour les compagnies qui veulent venir sur le réseau allemand parce qu'elles doivent payer justement des taxes absolument pharaoniques. Enfin, des redevances absolument pharaoniques. Donc, c'est une manière, finalement, de maîtriser le marché.
Oui, et puis, surtout, ce qui est très important, c'est que l'Allemagne, elle n'a pas fait un accès ouvert et total. Et d'ailleurs, ce qu'on a voté au Parlement européen, ce n'est pas la libéralisation, c'est le quatrième paquet ferroviaire. Donc, la concurrence n'est pas un postulat qui a réponse à tout. Et 75% des lignes en Allemagne restent géré par la Deutsche Bahn. Donc ce n'est pas un accès ouvert et total. Donc il faut faire très attention à ce que veut Bruxelles, qui n'est pas l'accès ouvert et total, mais qui est aussi la préoccupation de pouvoir rendre ce service public, de pouvoir amener les usagers d'un endroit A à un endroit B. Il faut faire très attention à ça. Et sur la question des lignes régionales, c'est encore plus important, puisque c'est parfois le seul moyen de pouvoir se déplacer si on veut vraiment faire le choix du report modal. Donc certes, ça a un coût, mais ça a aussi un avantage. Et il y a la question du coût financier et la question du coût du service qui est rendu aux usagers. Donc il y a des choses qui se monnaient et il y a des choses qui sont des services rendus. Et c'est le principe du service public.
Le service rendu, le coût, on va y revenir, notamment avec l'exemple britannique où là, les prix se sont envolés parce qu'il n'y a pratiquement pas de subvention, Madame Bilbao.
Je pense que tout ça, nous parlons de cette libéralisation parce que nous avons déjà accepté, entre tout, le quatrième paquet ferroviaire.
Je pense que, en langage concret, ça veut dire quoi, le quatrième paquet ferroviaire?
Oui, mais nous ne pouvons pas parler seulement de libéralisation si nous ne parlons pas de ce paquet ferroviaire que nous avons beaucoup travaillé ici. Et une question, c'est que nous avons besoin d'un espace ferroviaire unique. Et pour faire ça, nous devons avoir de transports ferroviaires compétitifs. Qu'est-ce qui se passe? Dans beaucoup de pays, aussi en Allemagne, l'espace s'est fermé. Il y a beaucoup de règles nationales qui coupent la possibilité des autres entreprises de faire ce service.
Ce que vous voulez dire, c'est que la philosophie générale du projet de libéralisation, c'est de faire un grand espace européen avec effectivement un système concurrentiel, mais on ne raisonne plus au niveau national, c'est-à-dire on raisonne sur des réseaux ferroviaires européens.
Ça, c'est l'objectif. Et c'est un processus qui a commencé déjà l'année 1991. C'est un processus qui a avancé petit à petit, mais nous, dans notre groupe, et moi aussi, je travaillais beaucoup pour éviter la situation et l'évolution, pour moi, un peu préoccupante de peut-être un futur monopole en Europe. Et vous avez parlé de la Deutsche Bahn et aussi les transports français. Et je pense qu'il y a un risque parce que nous savons que tous les pays membres, ils ont peur de dire oui, cette libéralisation, peut-être il va mettre en risque mon entreprise publique. Mais ça veut dire que le marché il est fermé. D'autre part, nous voulons l'investissement privé et toute cette situation nous donne une situation dans laquelle les entreprises privées nous disent que ce n'est pas possible de faire l'investissement, ce n'est pas possible de faire l'innovation parce que le marché privé n'a pas la possibilité d'avoir la possibilité de faire un service. Et le quatrième paquet ferroviaire est là. Essayer avec toutes les réglementations d'éviter tous les règles nationales, mais toujours pour faire cet espace, pour donner des compétitivités à tous les entreprises, mais surtout de donner un bon emploi, un service innovatrice et des conditions sociales élevé.
Au standard 0145-24-7000, on retrouve Alice. Bonsoir Alice, on vous écoute.
Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dites-moi, nous parlons de train ce soir. Nous parlons du chemin de fer, nous parlons d'Europe, nous parlons de compétitivité, mais il faudrait surtout parler de qualité de vie, des lignes qui sont très importantes dans nos vies. Les lignes importantes, c'est nos lignes régionales. Et bien sûr, je parle de la ligne Nîmes-Clermont-Ferrand, la ligne qui traverse les Cévennes. Et on parlerait aussi d'écologie. Et là, dans tous ces problèmes de chiffres, de concurrence d'Europe, on oublie de parler de qualité de vie, voilà, et d'écologie. Voilà.
Merci Alice, vous avez souligné l'importance des petites lignes, effectivement. Est-ce que les petites lignes ont été préservées dans les pays où on a ouvert, en Allemagne, en Italie, visiblement le réseau régional est très compliqué, très fragile, et en Angleterre aussi, Christine Revaud-Dallone, est-ce que dans les pays où on a ouvert effectivement la concurrence, les petites lignes ont été préservées?
Eh bien, pas toujours. Et ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. En Allemagne, il y a certaines lignes qui ont été fermées, et en Suède également. Donc, c'est un vrai sujet de préoccupation, parce que, encore une fois, et c'est pour ça que le rapport 4e paquet ferroviaire, qui est un ensemble de textes, ne dit pas libéralisation du ferroviaire. C'est paquet où il y a un certain nombre de points. Et la compétitivité, la recherche de bénéfices pour les entreprises privées, ce n'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est comment faire en sorte d'avoir un système ferroviaire qui permette de réellement utiliser davantage le train que la voiture pour des questions environnementales, pour des questions de report modal, comment l'accompagner de la meilleure façon qui soit. Et dans ces points-là, la question de l'accessibilité et de mettre fin à cette fracture territoriale et donc de s'intéresser aussi sur ces lignes qui sont dites non rentables parce que économiquement elles ne le seraient pas, mais elles sont dans un ensemble de lignes, doit être pris en compte, et y compris de la part des entreprises privées. Vouloir faire uniquement un bénéfice financier sur des lignes de transport qui sont un service rendu aux usagers n'est pas une bonne réponse. Et sur le 4e paquet ferroviaire, il faut quand même rappeler que tous les groupes n'ont pas voté pour, et mon groupe, les socialistes et démocrates, nous n'avons pas voté pour.
Karim Adeli, qu'est-ce qui est concrètement prévu dans ce fameux 4e paquet ferroviaire?
Très simplement, c'est que l'Europe va poser un cadre. Elle pose un cadre. Parce qu'on oublie une chose, dans le 4e paquet ferroviaire, il y a deux volets. Un volet, notamment d'harmonisation des normes. Il y a plus de 10 000 normes sur la question du ferroviaire. Par exemple, un train qui passait de Belgique jusqu'en en France, il y avait trois systèmes pour passer, notamment les feux verts, les feux rouges. Voilà, 10 000 normes qui sont réglementées. Maintenant, sur le paquet dont on parle, sur l'ouverture à la concurrence. Désormais, la balle est dans le camp des États membres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États membres doivent beaucoup aujourd'hui investir sur la question du ferroviaire, mais n'oublions pas que la main, aujourd'hui, elle est dans les régions. Pourquoi ? Dans les grandes lignes, l'ouverture à la concurrence, c'est à partir de 2019, obligation à partir de 2020, mais les petites lignes, comme vous les appelez, parce que moi je n'aime pas appeler ça les petites lignes.
Disons les lignes régionales.
Voilà, je préfère parler
des lignes régionales.
Voilà, les lignes régionales, ce sont les TER, les intercités, les corails, etc. Elles sont obligatoires à partir de 2019. Mais avec aussi une extension jusqu'à 2023 pour pouvoir s'adapter. D'accord ? Maintenant, la véritable question que vous êtes en train de poser, c'est pourquoi on en arrive là en France ? Comment ça se fait que des petites lignes se ferment ? Mais parce qu'on a fait des choix politiques, que ce soit de droite ou de gauche, ça fait 30 ans qu'on investit sur le TGV. Et bien le TGV, c'est le déficit structurel de la SNCF. Ça, il faut le dire. Donc ce qui fait qu'on n'a pas investi sur ce qu'il fallait investir, la rénovation, la modernisation de ces lignes, parce que justement les gens en avaient besoin. Et madame, vous parlez de climat, et merci beaucoup. Pourquoi ? Mais parce que les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. 30% des gaz à effet de serre et 90% de ces gaz, c'est quoi ? C'est tout sur la route. Et donc, ça fait 30 ans en France qu'on privilégie quoi ? La route par rapport au ferroviaire. Et quand vous dites que... Est-ce qu'il y a des exemples où, justement, des petites lignes ont été fermées et qui ont été une catastrophe parce que dans des territoires défavorisés, on avait l'habitude de sa gare, on avait l'habitude justement de ne pas prendre sa voiture, mais de prendre le train. L'exemple flagrant, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a vu une hausse des prix, donc les gens, ce n'était plus accessible. On a fermé des trains, il y a eu une augmentation terrible des retards et une réduction du personnel. Et bien, tout ça, même en ce moment, en Angleterre, il y a tout le redébat de la renationalisation. Et je pense qu'on a une opportunité extraordinaire. C'est que l'Europe, aujourd'hui, a fixé un cadre. Maintenant, moi, je n'aime pas parler non plus de libéralisation. C'est l'ouverture à la concurrence doit donner la responsabilité aux États et aux régions de faire les bons choix. Et c'est maintenant.
Alors, l'Angleterre, justement, le Royaume-Uni. Yvan, vous vouliez intervenir au Standard pour nous poser une question à propos, effectivement, de l'ouverture à la concurrence au Royaume-Uni, qui était un des premiers pays à s'ouvrir. On vous écoute, Yvan.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question et merci pour la qualité de vos émissions. Donc ce que je disais justement au Standard, moi j'ai souvent entendu des critiques sur la privatisation des chemins de fer britanniques. J'aurais voulu savoir, avec cet exemple-là, s'il y a d'autres pays qui font mentir la mauvaise image que j'ai de la privatisation et qui apporte quelque chose à l'usager et puis également aux citoyens. Parce qu'il y a une chose que j'arrive pas bien à comprendre lors d'une privatisation, c'est que l'État a fait des investissements sur une infrastructure, sur du réseau, etc., au travers de leur compagnie nationale. C'est donc le citoyen qui paye via le transport, mais via aussi ses impôts. Je pense pas que tout soit financé uniquement par les titres de transport. Et je voudrais savoir, après une privatisation, comment l'usager s'y retrouve en termes de confort, de tarifs, d'entretien des gares, etc. Et comment le citoyen également s'y retrouve en termes de redevances des compagnies privées et sur ensuite l'utilisation qui est faite du réseau qui a été construit par l'État préalablement.
Merci Yvan pour votre question. Christine Orvodal, on peut peut-être citer quand même l'exemple de l'Italie, parce qu'il y a quand même une réussite du côté italien avec cette compagnie privée de TGV qui finalement marche très bien aujourd'hui.
C'est une compagnie de TGV, pas de ligne régionale.
Absolument.
Hein, intéressant, là, à la souligner.
J'en reviens effectivement à la réflexion, ouais. La question de Yvan, ça marche là pour l'instant l'Italie.
Là ça marche. Au Royaume-Uni, on l'a vu, ça marche pas très bien. Et en Suède, il y a eu un sondage très récemment qui a été présenté sur que pensez-vous du système privatisé en Suède. Et 70% des Suédois demandent à revenir à un système national parce qu'ils sont absolument pas contents. Il y a tellement d'opérateurs qui proposent les mêmes déplacements d'un endroit A à un endroit B qui s'y retrouvent plus sur rien, qu'il n'y a pas de ponctualité et de garantie de pouvoir prendre le train de la compagnie qu'ils ont réservée. Il y a des sujets, d'ailleurs ce sont les mêmes qu'on retrouve au Royaume-Uni sur ça. Donc il faut prendre les choses, non pas en se disant ça y est, ça va être la super bonne nouvelle, on va tout résoudre. Il y a des choses qui fonctionnent, mais elles fonctionnent dès lors qu'elles sont faites de façon mesurée et dans la concertation surtout. Et en France, on va en avoir besoin, je pense, pour que ce soit accepté par tout le monde. Mais pas dire, voilà, demain, allez, SNCF n'est plus une entreprise publique, on va ouvrir tout à la concurrence parce que vraiment ça ne va pas du tout. Non, il faut être mesuré. L'Allemagne l'a fait de façon calme.
La SNCF restera une entreprise publique. Elle va changer de statut, mais ça va rester une entreprise publique. On ne privatise pas la SNCF dans le projet. On ne
privatise pas pour l'instant.
Karim Adeli et après madame. Alors, Madame Bilbao.
Je suis d'accord que nous parlons de l'ouverture à la concurrence. Ça, c'est clair. Et je pense que tout le monde a dit oui. Peut-être les groupes socialistes, en rapport dans les cadre de ce quatrième paquet ferroviaire, a dit non. Mais en général, tous nous sommes d'accord. Et d'une part, est-ce que l'ouverture et la libéralisation, on veut dire que le marché est le pire? Non, ça dépend aussi de chaque organisateur. De quelle façon il est capable de gérer l'organisation de son transport public. Mais je crois que nous devons aussi garantir le fonctionnement du réseau régional. Parce que quelquefois,
On peut dire pour l'instant que c'est un peu l'échec partout, sauf peut-être en Allemagne, parce que ce sont les Länder, effectivement, qui donnent des délégations, en quelque sorte, de services publics aux opérateurs. Oui. Et ils sont contrôlés de manière très stricte.
Oui,
Madame Bilbao.
Oui, ils sont contrôlés de façon stricte, mais en Allemagne, par exemple, je dis avant, c'est un marché assez fermé.
Oui, on n'est pas du tout, on l'a vu en début d'émission, 99% des grandes lignes restent sous la sous-domination de la Deutsche Bahn. Donc on n'est pas du tout dans un marché ouvert. On est sur un marché ouvert sur le papier, mais effectivement.
Mais je vais essayer encore une fois de parler de ce quatrième paquet ferroviaire, parce que c'est, il y a un accord entre toutes les institutions européennes. Dans ce paquet ferroviaire, je vais poser une question, un exemple. Si une personne prend le train à Bruxelles pour arriver à Strasbourg, le réseau général, ce n'est pas possible de le faire de façon directe. On doit prendre un autre train à Luxembourg pour arriver jusqu'à
Strasbourg.
Est-ce que ça, c'est un marché unique? Ça marche bien? Ce n'est pas possible. Une autre chose, avec la question de la sécurité. Il n'y a pas de règles harmonisées au niveau européen. Il y a une règle en France, il y a une autre règle en Belgique et une autre règle en Espagne. Quand il y a un accident, tout le monde dit « Ah, qui est le responsable ?» Et nous regardons et « Ah oui, vous n'avez pas rempli la règle ou la directive correspondante. »
Donc ça
signifie quand nous parlons de la ouverture des services, quand nous parlons de la qualité des services, nous parlons aussi de la sécurité que nous devons essayer de le faire. Et il y a un problème énorme, énorme. Et c'est plus facile avec une ouverture. Ça veut dire que le service sera mieux qu'un marché fermé. Non, mais on doit donner la possibilité. Parce qu'un autre exemple, parce qu'ici, il n'y a pas seulement les personnes qui prennent les trains. Il y a aussi un marché des entreprises qui font les trains. Est-ce que vous savez...
C'est-à-dire le fret.
Oui, le fret. Est-ce que vous savez qu'un entreprise, il fait un fret, il vend le fret, mais il peut rester dans son entreprise jusqu'à 18 mois, 20 mois, parce que le pays qui doit accueillir le train dit « Ah non, 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 vous remplissez la règle de votre pays, mais pas la règle de le pays qui va utiliser
le train. » Il faut harmonisation des règles, effectivement, pour créer un vrai réseau européen, Karima Deli.
Quand nous parlons de ça, nous parlons de toutes les questions. Et ce n'est pas possible de parler seulement de l'ouverture si nous ne parlons pas de toutes les autres questions qui sont très problématiques et coupent surtout la qualité des services pour tous les citoyens.
19h40, presque 45 sur France Inter. On retourne au standard. L'ouverture, la libéralisation du transport ferroviaire en Europe, c'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Bonsoir Frédéric, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tous, à nos invités. Alors moi, je ne sais pas si la concurrence et la libéralisation apportera beaucoup de progrès. On a vu, on a parlé là des exemples de Grande-Bretagne et de Suède. On a l'impression qu'il faut effectivement une harmonisation. On voit mal des sociétés privées propriétaires de morceaux de lignes ou de morceaux de... Voilà, comme ça peut être fait entre Tours et Bordeaux, par exemple, ou entre Perpignan et Figueras, où on ne sait pas s'il y aura plusieurs opérateurs par ligne ou un seul. Enfin voilà, ça paraît très compliqué de privatiser. Mais cela étant, moi, quand j'entends dire que la SNCF n'est pas privatisée, j'en entends un peu parce que la SNCF, on n'en parle jamais, a 1250 filiales privées. Disons qu'il représente à peu près 30 à 40% de son chiffre d'affaires et presque la moitié, 45%, disons, de ses salariés qui ne sont plus des cheminots, mais des salariés, disons, de titres privés. Et nos grandes centrales, disons, nationales, que la SNCF et la Deutsche Bahn, eh bien, figurez-vous que ce sont celles qui ont pris les marchés lors de l'ouverture au privé. Par exemple, la Deutsche Bahn a l'exclusivité du fret dans trois pays européens, je ne sais plus lesquels, mais enfin, autrement dit, les grands services nationaux sont sur le marché privé. Alors la vraie question, je me demande, comme quelqu'un l'a dit, si ce n'est pas plutôt que d'ouvrir à la concurrence, mais d'avoir une vraie volonté politique de faire marcher, disons, le service public. Si la SNCF a acheté ou créé 1250 filiales, elle y a laissé énormément d'argent. Autrement dit, elle s'est préparée à la concurrence, mais du coup, elle n'avait plus d'argent pour réparer les lignes. Elle a délégué la réparation des lignes, la gestion des gares, la gestion des parkings, la gestion des billets à ses filiales privées qui peuvent engranger des bénéfices. Et elle, eh bien, elle garde les dettes. Et je me demande si la vraie concurrence est la plus déloyale. En fin de compte, elle n'est pas, et en particulier pour le fret, la vraie concurrence est déloyale, elle ne vient pas de la route. Tout à l'heure, notre amie européenne a parlé du grand plan ferroviaire. C'est bien beau, mais l'Europe, entre 2000 et 2011, a davantage donné à la route qu'au ferroviaire par ses subventions. Alors, quand on sait qu'effectivement, la route, c'est 3,5 fois plus polluant que le fer, est-ce que la vraie concurrence, ce n'est pas la route? Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas d'avoir une vraie volonté de service public?
Merci Frédéric. La vraie concurrence, est-ce que c'est pas la route? En Allemagne, la vraie concurrence, Karim Adeli, c'est la route. Je reviens toujours à l'exemple de l'Allemagne, mais le marché s'ouvre très peu aussi parce que il y a un marché du bus qui est très développé.
Ben oui, il y a d'autres moyens de transport. D'autres moyens de transport qui se sont développés, mais je tiens à rappeler quand même que l'offre de la Deutsche Bahn reste aujourd'hui majoritaire parce que tout le monde parle de privatisation. Alors, faut faire attention, parce que la privatisation, quand on regarde le statut de la Deutsche Bahn et quand on regarde un peu le statut que pourrait prendre demain la SNCF, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est pas trois épiques, mais deux épiques, et c'est un petit peu le capital à 100% capital public, donc dans les mains de l'État. Moi, mon problème, il est pas là, parce que ça restera justement à capital public. Moi, c'est lorsqu'on me parle justement de devenir une société anonyme. Et là, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'une société anonyme, eh ben, ça ne peut pas s'endetter.
Oui, aujourd'hui, l'endettement de la SNCF, c'est 50 milliards d'euros, ben, 3 milliards d'euros de plus par an. Est-ce que c'est tenable?
Eh ben, c'est ça la vraie question. Donc aujourd'hui, il faut vite
reprendre... Parce que la SNCF est un EPIC, on le rappelle, donc qui peut s'endetter. La société anonyme ne pourra pas s'endetter.
Voilà, et c'est là la véritable question du débat, qui n'est pas assez abordée, je trouve. C'est-à-dire, on va reprendre la dette de la SNCF, qui est de 46 milliards d'euros, c'est énorme, mais pour effacer cette dette, ça ne suffira pas à réellement investir pour la rénovation, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut des nouvelles recettes. Et moi, j'insiste sur le fait que ne fermons pas les yeux sur une redevance poids lourd. Je suis contente que ma collègue et amie Christine Revaud-Allonne est là et qui est la rapporteure de cette Eurovignette. Il faut maintenant parler des vrais débats. Il faut taxer la route. Il est grand temps parce que ce sont aujourd'hui on est quand même en France le 25e pays sur 28 qui a pas de fiscalité écolo. Alors que c'est des recettes dont on a besoin pour réinvestir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une dette et un déficit structurel parce qu'on a fait des très mauvais choix politiques. On a tout mis sur le TGV en fermant les yeux sur les petites lignes et notamment sur les territoires défavorisés. Donc maintenant, il faut prendre l'inverse, c'est maintenant, mais encore faut-il que cette ouverture à la concurrence soit cadrée. Parce que moi, je tiens à le dire, on s'était battu, même dans la commission transport, souvenez-vous, chers collègues, c'est chouette d'avoir trois femmes qui parlent de transport sur votre plateau.
Voilà.
Non mais on s'était battu. Et on a perdu, mais on s'était battu pour avoir des garde-fous dans le quatrième paquet ferroviaire. Les libéraux ont dit non, les conservateurs avaient dit non, c'était les garanties de mission de service public. Et maintenant, c'est plus obligatoire parce qu'on ne le retrouve pas dans le texte. Donc maintenant, c'est aux régions, c'est aux États membres de garantir ces missions de service public.
Jean-Claude au standard 01 45 24 7000, on vous écoute, bonsoir.
Oui, bonsoir, je voulais faire un parallèle parce que je suis un ancien d'une certaine société qui s'appelait avant France Télécom et qui est maintenant Orange, donc qui est société privée, avec les conséquences sur l'emploi que ça a eu, y compris les suicides, et y compris, là, on nous parle de la concurrence, mais SFR s'apprête à supprimer 5000 emplois. Donc tout ça, ça suffit, cette Europe-là qui massacre tout, tous nos acquis, tout ce que nos grands-parents ont chèrement payé et gagné. Donc c'est pour le business. Vinci s'apprête à prendre l'aéroport de Paris. Il est sur les rangs pour la SNCF. Tout ça, c'est pour les gros capitaux, les grosses sociétés. Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais je crois que Macron, on dit un an, ça suffit, quoi, parce que donc on appelle à une manifestation nationale le 13 mai 2018 à Paris, hein, la tribune des travailleurs et le Parti ouvrier.
On a compris, Jean-Claude. On a compris très bien. Effectivement, moi, je voulais en venir quand même sur ce statut, effectivement, des cheminots aujourd'hui en France, mais aussi en Europe. Comment, effectivement, dans les autres pays, le statut des cheminots a-t-il évolué? Par exemple, si on prend le cas de la Suède, il y a eu de nombreuses grèves, notamment concurrents contre des sociétés françaises. Une société française, si je me souviens bien, c'était Veolia. Et finalement, ils ont réussi à préserver leur statut. Christine Revaud-Allonne, y a-t-il une corrélation entre changer le statut des cheminots et libéraliser effectivement le transport ferroviaire?
D'abord, je le répète et je le dirai jusqu'au bout. La France n'est pas tenue de libéraliser, d'ouvrir à la concurrence à 100%. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas Bruxelles qui le commande, ce sera le gouvernement qui l'assumera. Sur la question du statut, on a, comme le disait Karim Adeli tout à l'heure, pas pu le mettre en obligation qui s'impose à tous les États, mais en tout cas, c'est quand même prévu comme étant une recommandation très forte de pouvoir transférer le personnel avec les mêmes conditions que celles dans lesquelles il se trouve aujourd'hui et dans la compagnie pour laquelle il travaille. Donc il y a cette possibilité-là, elle est écrite noir sur blanc, elle n'est pas rassurée, elle n'est pas confortée autant que nous l'aurions souhaité, mais elle est quand même mentionnée. Mais encore une fois, il n'y a pas de diktat de Bruxelles pour dire libéralisez tout, ouvrez tout. Il y a des groupes politiques au Parlement européen qui sont favorables à ça. Mais tous les groupes ne le sont pas. Nous, ce qu'on voulait, c'était effectivement, et comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, c'est harmoniser un certain nombre de règles. Et la question de la sécurité est très importante. Et là-dessus, on est tous tombés d'accord pour faire en sorte que nous ayons l'Agence ferroviaire européenne qui puisse chapeauter l'ensemble des agences nationales pour faire en sorte qu'on ait des échanges et qu'on puisse avoir des systèmes qui permettent d'aller d'un pays à un autre d'une façon beaucoup plus fluide, de ne pas avoir ces problèmes de taille de rail qui fasse qu'on ne puisse pas traverser la frontière. Ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la concurrence qu'on y arrive. La concurrence peut être un moyen, mais n'est pas le seul. Et en tout cas, ce n'est pas le diktat. Je le dis et le répète, ce n'est pas Bruxelles qui nous ordonne à la France de faire ça.
Karim Adeli, on ira au standard avec Thierry.
Sur le statut des cheminots, je tiens à dire que les problèmes de retard, les problèmes de lignes, les problèmes qu'on a de lignes, surtout en banlieue en France, ce n'est pas le statut des cheminots. C'est ça qu'il faut dire. Moi, ce qui m'agace dans ce débat-là, c'est qu'on parle de cheminots, mais les cheminots, ce sont des mécaniciens, des aiguilleurs, etc.
Comment, Karim Adeli, on ne va pas faire un débat sur le statut des cheminots en France. Comment ça s'est passé dans les autres pays?
Eh bien, aujourd'hui, on a la réflexion, c'est qu'on ne peut pas précariser la question, notamment, de ces salariés. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers à haute responsabilité pour la sécurité des passagers. Et on l'a toujours dit, parce que vous faites un parallèle, et on le fait toujours le parallèle dans la commission de transport au Parlement, on prend toujours le parallèle avec les... Si on précarise demain, je vous donne un autre secteur, mais les conditions de poste pour les pilotes, c'est pas possible, parce que derrière, il y a la question de la sécurité. Et il y a même eu une étude qui a montré que plus vous précarisez une profession, plus le risque d'accidentologie...
Mais qui aujourd'hui veut précariser cette profession?
Mais c'est là où...
Les opérateurs privés n'auront pas forcément précarisé les professions.
Non, mais c'est là où Christine Revaud a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe fixe un cadre. Ensuite, ce sont les États membres qui font des choix. L'Europe n'a pas dit à la France... faites-moi un nouveau statut des cheminots. Ce n'est pas vrai. Ce sont des choix politiques. Moi, je le dis, ce n'est pas sur le statut des cheminots dont j'ai peur. Je vous le dis, hein, moi, ce dont j'ai peur, c'est le transfert des personnels. Parce que demain, ce n'est pas la réforme de leur statut, c'est leur perte de l'emploi. Et demain, si une compagnie comme la Deutsche Bahn arrive en France avec son personnel, c'est-à-dire qu'il y aura des destructions d'emplois. Et c'est ça qu'il faut éviter.
Au standard, on retourne au 01 45 24 7000. Thierry, vous nous appelez. Bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir à tous. J'adore le train. Je voyage souvent en Allemagne et en Italie par le train. La concurrence est au service des clients. Pourquoi donc ne pas l'appliquer au service des clients français?
Merci Thierry pour votre question. Christine Revaud-Allonne, question simple.
Je peux dire quelque chose?
Oui, alors.
Nous parlons beaucoup sur les conditions de chef, d'emploi. Est-ce que il y a une autre chose? Nous pensons qu'un service public, c'est la garantie d'emploi d'autres niveaux. Mais le transport ferroviaire en France, il y a une dette inassumable, inacceptable.
Alors, je voulais quand même qu'on réponde à la question. Ouais. Je voulais quand même qu'on réponde, qu'on ne fasse pas le débat, là, mais qu'on réponde, je voulais qu'on réponde à Thierry, quand même. Le service et le client. Christine Revaud-Allonne.
Mais enfin moi je parle pas de client, je parle d'usager déjà, mais évidemment qu'il faut qu'il y ait le meilleur service possible et que d'une façon raisonnée, je suis pas contre l'ouverture à la concurrence, je dis juste qu'il faut pas systématiquement considérer que ça va tout régler. Ça ne peut pas régler tous les problèmes et il faut que ce soit raisonné et il faut qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui soient remplis et respectés. Et le premier, c'est garantir cette obligation de service public de permettre d'assurer le maintien des lignes, qu'elles soient rentables ou pas rentables. Faire en sorte que le coût de le billet de train qui soit proposé aux usagers soit acceptable et que la situation des personnels qui travaillaient pour un opérateur ne se trouve pas endommagée parce qu'on change d'opérateur. Il faut respecter tout cet ensemble-là. Si on ne respecte pas tout cet ensemble et qu'on a juste la question de ça fait des billets de train moins chers et puis sur telle ligne, eh ben, elle est supprimée parce qu'elle n'est pas rentable, on n'aura pas réussi.
C'est quand même important le prix du billet pour le client, l'usager. Je veux dire, c'est quand même important aujourd'hui, c'est même fondamental.
Mais c'est
qualité du
seul...
service et prix du billet.
Exactement, mais la qualité du service. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait le service. Et donc il faut qu'il y ait la ligne ouverte. S'il n'y a plus de ligne ouverte parce que ce n'est pas rentable, c'est un peu dommage.
Le privé amène quand même des services. Regardons, je reviens à l'exemple de l'Italie. La ligne privée TGV a amené une baisse des prix et qualité de service, visiblement.
Non, ligne TGV, encore une fois.
Oui, ligne TGV,
et
encore
après,
une fois.
Mais dans c'est quand même un résultat. Il faut faire très attention et il faudra accompagner les régions parce que ce sera très important en termes de coûts pour faire en sorte que les lignes dans les régions restent accessibles. Si on les transforme par des lignes de bus ou diesel, je ne suis pas sûre que là, on ait respecté un autre des critères qui est la question de la lutte contre les gaz à effet de serre dont parlait Karima Deli tout à l'heure.
Karima Deli, 10 secondes pour conclure.
10 secondes, vous avez raison. C'est-à-dire que là, la ligne aujourd'hui Rome-Milan a réussi à concurrencer notamment l'avion low-cost. On voit bien qu'aujourd'hui, les comportements ont changé. C'est-à-dire que si demain, on investit réellement sur le ferroviaire avec un service de qualité, ben les gens prendront plus le train et on va changer les comportements parce que la planète en a besoin. Et surtout, c'est que notre service public en a besoin aussi.
Merci voilà. Karima Deli, merci à tous. Merci aussi à l'équipe technique ici à Strasbourg. On arrive au terme de cette émission. Jean-Christophe Pécheur, Sarah Tanguy, Claire Duncombe, Jürgen Schmitt et à Paris, à la réalisation, Hélène Bisio, assistée de Pierre Dessertaine. Vous êtes sur France Inter dans quelques instants. Il sera 20h. Merci.